Off the Record.
Bienvenue dans ce premier épisode d'Off the Record, une série podcast proposée par la Fédération des labels indépendants francophones et qui a pour objectif d'éclairer à la lampe torche le métier pas toujours évident de ces gens qui auraient peut-être mieux fait d'être influenceurs Instagram ou même comptables. Oui, je veux parler de ces irréductibles patrons et patronnes de labels belges à qui on doit certains de vos disques préférés. Off the Record. Mon invité du jour n'est pas à confondre avec Juliette Armanet. Non, son titre préféré n'est certainement pas Les Lacs du Connemara de Michel Sardou, et en fait, on pourrait presque dire que c'est tout l'inverse. On accueille aujourd'hui Juliette Demanet, co-label manageuse de Loïc Records et figure de la musique indie liégeoise, puisqu'elle est aussi passée par le collectif Jeune Orange et gère encore les communications du micro-festival. Off the Record, c'est parti pour 30 minutes de confession sur l'industrie du disque, et on va se dépêcher de débuter cet épisode avant que le vinyle ne devienne aussi vintage qu'un téléphone filaire. C'est parti. Off the Record. Bonjour Juliette, merci de nous accorder un petit peu de temps pour cette série et ce podcast. Alors, je te propose qu'en ces temps d'insécurité, on commence avec un contrôle d'identité.
D'accord.
Afin que tu nous expliques un petit peu, pour commencer, qui tu es.
Je travaille chez Loïc Music, qui est un label indépendant belge, qui existe depuis 2015. Je ne suis pas là depuis le début, mais ça fait 5-6 ans que j'y suis maintenant. Et au-delà de Loïc, je travaille aussi au Micro Festival, qui est un petit festival à Liège. J'ai été aussi attachée de presse. Enfin voilà, j'ai un petit peu gravité dans d'autres sphères du milieu musical depuis 6-7 ans.
Est-ce qu'on peut dire qu'en 6-7 ans, t'as vu un petit peu, je perds toutes les étapes de l'industrie du disque, mais quand même plusieurs niveaux, on va dire.
Ouais, carrément. J'ai aussi bossé dans une salle à Liège qui s'appelle le Reflector. En accueil artiste, un petit peu de prod, donc ouais, j'ai quand même eu la chance de pouvoir toucher à pas mal de facettes des métiers de la musique, et je pense que c'est quand même intéressant d'avoir de cette formée. Ben voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais j'ai une bonne vision effectivement de beaucoup d'aspects autour des projets musicaux.
Si on est dans un jeu vidéo et qu'on commence au niveau 1, est-ce qu'on pourrait commencer par l'histoire de Loïc et que tu nous expliques comment ça a commencé au départ ?
Alors, Loïc, donc moi au départ, je n'étais pas là. J'étais en vie, hein, mais je n'étais pas chez Loïc. L'histoire de Loïc, c'est une histoire de label indépendant assez classique, je dirais, parce qu'il a été créé donc, pour sortir les disques de Edith Anita, donc créé par Damien Aresta et Michael Goffard. Tous deux dans Edith Anita. Enfin, maintenant Damien n'y est plus, mais à l'époque c'était eux deux, voilà, qui ont lancé l'œil pour sortir leur disque et voir un petit peu plus grand pour prendre d'autres groupes au début liégeois sous leur aile et ainsi de suite. Et puis nous, on est arrivés. Donc je dis nous parce que j'ai un collègue qui s'appelle Jean-Baptiste Goubard. On est arrivé en 2018 et de là, la structure voilà, a continué à évoluer et à être, je dirais, un petit peu plus ambitieuse et se professionnaliser pour être en fait pérenne et être notre activité principale.
Si on cite quelques artistes de Loïc, on peut citer donc Edith Anita, Marcel, Meul, Quentin Sauvé, Johnny Carwash, j'en oublie pas
ouais.
Mal, je pense. C'est quoi, selon toi, le point commun entre tous ces groupes ?
En fait, ce qui nous tient à cœur, c'est de toute façon le coup de cœur musical. C'est peut-être un peu cliché, mais en tout cas, il faut vraiment que la musique nous plaise. Et c'est souvent des groupes qu'on a rencontrés sur la route, en festival. On a rencontré l'entourage. Et en fait, quand on les voit en live, on sent qu'on a quelque chose à faire avec eux parce que ça nous correspond en tant que personne, donc pas forcément en tant que structure. Parce que la structure, c'est vraiment nous, comme c'est tout petit. Il y a un truc qui se mélange vraiment, qui est très, très personnel. Et en fait, ça reflète complètement nos goûts musicaux. Donc, je dirais que c'est vraiment ça, notre sensibilité à certains types de musique. Mais toujours, en tout cas, moi, j'essaye de rester ouverte et de ne pas rester dans un style et d'aller chercher ailleurs aussi parfois. Des aventures humaines, en fait, parce qu'on travaille vraiment avec des gens avec qui on se sent bien et avec qui on sait communiquer facilement, avec qui la collaboration est assez fluide. Donc ça, c'est un autre point commun, peut-être plus dans l'ombre, mais c'est super important pour nous parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'est pas beaucoup. Enfin, moi, là, je suis seule sur le label. Donc c'est important qu'en fait avec les groupes il y ait une économie d'énergie, on va dire ça, dans la communication et que ça se passe simplement et qu'on puisse défendre la musique voilà, avant tout, sans trop se prendre la tête.
La série s'appelle Off the Record. Bon, donc l'expression anglaise, c'est vraiment le côté c'est off, où je vais te faire une confidence en marge d'une discussion officielle. On peut aussi le voir comme comprendre qui sont derrière les labels. Et je trouve que la question se pose d'autant plus à l'heure du digital, où on voit des petites pochettes de 25 pixels sur 25 pixels sur Spotify. Je pense qu'on a tendance à oublier qui sont les gens grâce à qui les disques et les artistes peuvent sortir, qu'il s'agisse de rap, de rock, de dancehall, de pop, etc. Concrètement, toi, au quotidien, c'est quoi ton boulot?
Moi, mon boulot, je dirais que c'est de vraiment accompagner les projets de manière professionnelle et de les structurer. Donc là, on parle de label, mais l'œil, c'est quand même un peu aussi réinventé autour du label, parce qu'on est aussi, on fait du management. Donc moi, je manage Titanita. On a fait du booking et on va, j'espère, pouvoir en refaire dans pas longtemps. On est éditeur. Donc en fait, on est un peu voilà, une agence 360 degrés. Et comme ça, en fait, on peut proposer aux artistes d'être accompagnés, d'être structurés, d'être professionnalisé. Donc moi, c'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse, et c'est toujours différent selon si le groupe a un management, a du booking. Voilà, on remplit un petit peu les trous, quoi. En tout cas dans l'accompagnement professionnel. Et après, moi, concrètement, au quotidien, c'est beaucoup de travail de bureau. Donc mes charges sont assez lourdes, comme je suis vraiment seule à tout gérer. Donc de la distribution à la promo, à juste les plannings, le management d'ITIT en plus. Donc moi, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je ne peux plus trop me déplacer, pas autant que je le voudrais. Et donc, c'est vraiment au quotidien un travail de bureau, donc beaucoup de mails, beaucoup de promos, un petit peu de graphisme, parce qu'il manque toujours un visu, un logo, de la com, réseaux sociaux, envoyer des disques, les emballer encore et toujours. Donc voilà, c'est ça mon boulot.
Alors du coup, est-ce que tu as l'impression que c'est encore un métier qui fait rêver? Parce qu'effectivement, quand on veut lancer un groupe de rock, on oublie qu'il faut dormir dans des hôtels pourris et être payé 100 balles pour 4 personnes, une fois sur 4. J'en passais des meilleurs. Dans le boulot du label manager ou de la label manageuse, j'ai l'impression qu'il y a effectivement aussi de beaucoup ce qu'on appelle de tamiori, mais de back office, quoi. Comment on arrive à supporter la contrainte et à garder le plaisir initial qui est fait qu'on a préféré devenir label manager plutôt que manager chez Quick, tu vois?
Ouais. Moi, j'essaie toujours de me rappeler pourquoi je suis là et pourquoi, au final, on en parlait au début, dans tous les métiers auxquels j'ai pu toucher de près ou de loin dans la musique, pourquoi en fait j'ai continué dans cette voie. C'est vraiment, ça me plaît en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de labels indés qui vont être un peu vraiment ambitieux et vouloir se développer, aller plus loin, porter les groupes indés. Et voilà, on ne fera jamais le poids de toute façon face à des structures plus grosses. Mais en tout cas, oui, moi, ce qui me drive, c'est de toute façon les projets pour lesquels je bosse. Et d'aménager aussi le travail comme je l'entends. Donc c'est vrai que l'œil, il y a aussi toute cette facette créative en fait, qui était super importante au début, parce que voilà, un des créateurs, Damien, avait un profil vraiment très créatif et lançait pas mal de petits sous-projets au sein de l'œil, ce qui était très cool. Et nous, on a un peu embrayé le pas, mais c'est vrai que maintenant, comme on a un peu cette ambition de devenir c'est plus gros, c'est pas vraiment le mot, parce que c'est pas une idée de croissance, c'est juste de pouvoir avoir une équipe un petit peu plus grande, être un peu plus confortable, on va dire. Il y a des nouvelles contraintes, juste d'avoir un peu d'argent, et donc comme je suis seule, les tâches sont un peu moins fun, j'ai moins de latitude pour faire des petits projets créatifs comme j'aimais faire avant. On avait un projet de blog que j'adorais, parce que j'adore écrire, mais voilà, ce serait peut-être pour plus tard. Et je sais en fait que je peux, que oui, il y a une partie qui est un peu chiante, mais qu'il y a toute une partie qui est géniale, et que faire ce que je fais, quelque part, je me rappelle toujours que j'en ai vraiment pas rêvé, parce que je n'imaginais pas faire ça, comme je connaissais pas ce métier, personne ne le connaît apparemment. mais en tout cas, je suis heureuse d'être à la place à laquelle je suis, et j'essaie de me le dire, quoi. Je dis, allez quand même, allez, tu bosses avec ces artistes-là, c'est cool. Il y a pas beaucoup de, c'est un peu ingrat comme boulot, c'est carrément ingrat, mais on rencontre des chouettes gens et on bouge beaucoup, et c'est quand même aussi merveilleux, quoi.
Mais je reviens sur ce que tu disais à l'instant, le travail de label manager, tu disais que c'était un métier qui n'existait pas. Est-ce que c'est forcément un métier qu'on apprend en le faisant?
En Belgique, oui, en tout cas. En France, il y a quand même plus de formations qui existent. Mon collègue est français, d'ailleurs, Jean-Baptiste, il a fait les formations d'Issoudun, donc en édition, ouais, spécialisé en édition. Et là, c'est déjà un bagage qu'en Belgique, il n'y a pas. Il y a un peu des formations de management artistique qui se développent et production événementielle, plutôt ces métiers-là de la musique, mais label manager... Moi, je pense vraiment que oui, donc ça demande aussi de l'énergie d'apprendre sur le tas. Mais maintenant, j'ai l'impression que j'ai atteint un stade où je comprends quand même ce que je fais, quels sont les enjeux, comment on pourrait se développer, même s'il y a mille trucs à apprendre, comme il n'y a pas de formation. C'est parfois compliqué de s'y retrouver. Puis on apprend des choses et on les oublie, en fait, plutôt au niveau des droits et vraiment de l'édition, mais qui, en fait, sont très importants pour un label. Donc oui, c'est on apprend. Moi, j'ai appris sur le tas, en tout cas.
Tu parlais tout à l'heure de ce terme 360 degrés qu'on retrouve dans beaucoup de PowerPoint, d'agences de communication, qui est un thème qui aujourd'hui est beaucoup utilisé pour finalement pas dire grand-chose. Il se trouve que dans ce que tu racontes et dans ton quotidien, il y a une vraie réalité. Le terme 360, il vient d'où pour vous ? Vous êtes à la fois un label, il y a du booking, il y a du management. Il vient de l'envie que vous avez d'être polyvalent parce qu'on est dans une génération, une époque où on a envie de toucher à tout. Ou est-ce que c'est l'obligation financière d'arriver à être rentable un peu sur toute la chaîne d'activité de développement d'un groupe ?
Oui, il y avait quelque chose de très intuitif, je pense, à la base, de vouloir accompagner les groupes comme en fait la plupart des groupes manquent d'accompagnement, de management, de booking. On s'est dit, on va le faire, en fait, comme on a les compétences. Et clairement, en fait, il s'avère que c'est hyper intéressant de défendre le groupe sur plusieurs plans, parce qu'on est sûr que le travail est fait. Et oui, c'est d'autres sources de financement. En fait, c'est comme ça pour moi qu'un label se réinvente aussi en intégrant des nouvelles activités. En tout cas, nous, dans l'Indé, après, je ne peux pas parler pour des plus grosses structures. Je ne connais pas vraiment les mécanismes financiers, comment ils sont gérés. Enfin, j'ai une petite idée, mais en tout cas, dans l'Indé, je trouve que c'est quand même vachement nécessaire d'intégrer des nouveaux boulots. Mais il faut savoir les faire et être un peu hyperactif. Mais moi, je suis très hyperactive et j'ai des périodes de grosse productivité. Donc, c'est pratique quand on a généralement trop de boulot parce que on y arrive, mais c'est pas non plus juste de se dire qu'il faut absolument le faire si on n'a pas les effectifs pour, parce que c'est quand même très très lourd et il faut assurer. En fait, à partir du moment où on dit je vais être manager ou même aider un groupe en distribution digitale, il faut le faire, quoi. Il faut le faire correctement, il faut suivre de A à Z, et en fait c'est à chaque fois plein d'onglets ouverts dans la tête, et c'est quand même un peu challenge, mais pour moi c'est nécessaire de faire ça en tant que label indé.
Comment ça se passe à la fin de ta journée quand tu as envoyé 45 mails de promo, relancé deux graphistes pour une pochette, géré des discussions chiantes avec la DSP, donc la Spotify, Apple & Co. Est-ce que tu as un sentiment d'éternel inachevé, de « putain, j'ai encore tout ça à faire demain » et en fait de puits sans fond ? Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a un sentiment un peu de superwoman ou superman, de « putain, j'ai réussi à tout faire et aller tout vous faire foutre, quoi, tu vois. Est-ce que c'est un peu les deux selon les jours, quoi, tu vois ?
Ouais, je dirais que c'est un peu les deux, c'est mélangé, mais je crois qu'on fait ces métiers-là parce qu'on est un peu fou aussi, quoi, et moi je suis très perfectionniste et j'arrive pas à me dire allez, je l'ai fait, c'est bien. Parfois ça m'arrive quand même quand j'ai des énormes journées, mais c'est plus y a très peu de sentiments de satisfaction. C'est pour ça que je dis que c'est un métier ingrat, mais ça va de mieux en mieux. Je dirais que le fait d'apprendre sur le tas, ça a aussi cet inconvénient, c'est que en plus moi j'ai pas de patron ou patronne, donc il faut que j'organise mon temps. Ça a pris pas mal d'énergie et d'apprentissage, de juste savoir faire mon horaire, d'être à des heures fixes au bureau, et en fait ça c'est super important, quoi, et ça m'aide à terminer mes journées, à être un peu plus structurée, à avoir un sentiment de satisfaction, au moins d'avoir l'impression de faire un boulot qui a un début et une fin, ce qui n'était pas le cas pendant des années où j'étais tellement tout le temps connectée à répondre à des mails, chez moi, dans les transports, faire des rendez-vous n'importe quand. Bah, en fait, se structurer, moi, ça m'a aidé à justement être un peu plus satisfaite du boulot et se dire « Ah ben voilà, aujourd'hui, j'ai fait ma petite to-do, je suis allée au bureau de 10 à 18. » Et en fait, on est quand même des produits de notre société. J'adore la pop culture, je regarde plein de films, plein de séries. Ben on voit des images de gens qui vont au boulot et tout. Et en fait, ça, je crois que psychologiquement, ça donne un sentiment de satisfaction d'être un peu structuré. En tout cas, moi, c'est vraiment mon cas. Et j'ai l'impression que je travaille mieux aussi comme ça. Mais c'est plus... quand une grosse journée est passée, après, c'est pas pour ça que mes tâches sont finies. Donc ça, ce sentiment de... j'ai terminé une tâche, ça c'est presque jamais quoi, vraiment, parce qu'en fait c'est, il y a trop tout le temps et rien ne peut jamais être parfait, c'est-à-dire que être seul à faire les choses, c'est être sur tous les plans, mais ne jamais pouvoir les faire à 100%, vu qu'en plus il n'y a pas les moyens. Donc tu dis les pochettes, relancer des graphistes, parfois il y a des graphistes qui nous aident, donc en plus il y a un rapport où ils ne sont pas forcément payés, donc en fait on ne veut pas leur mettre la pression, parce que en fait c'est pas juste de notre part, donc c'est toujours un peu jongler.
C'est toujours un petit peu du soft management pour arriver à avoir...
Et puis il n'y a pas de visu, je vais le faire moi-même, et en fait je n'ai pas d'argent pour payer la suite Adobe, donc je vais demander à mon copain qui a Photoshop, enfin, c'est toujours des trucs à la 6-4-2 comme ça. Et au final, ça se fait pas idéalement. Mais... Et puis, il y a la pression des partenaires un peu plus développés que nous, qui sont dans des grosses structures. Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que l'œil, que c'est juste moi et que vraiment, ce n'est pas toujours simple.
Est-ce que ce n'est pas une réussite, ça, que les gens croient que la structure est plus grosse que ce qu'elle est, finalement ?
En tout cas, je trouve que c'est cool. C'est surtout en France, parce qu'en Belgique, les gens nous connaissent peut-être un peu mieux. Mais en France, les gens pensent qu'on est 10, quoi.
C'est super.
Ouais, c'est tant mieux. Et apparemment, on est quand même de plus en plus reconnus. Donc moi, je suis super contente. Et c'est... Oui, quand on me dit ça, c'est des rares moments où j'ai un sentiment de « Ah, allez, ça, c'est du bon boulot. » Ça veut dire qu'on travaille, quoi. On travaille bien.
Revenons à l'identité du label et au nom du label. Mm-hmm. Historiquement, est-ce que l'aspect local, donc Luik, Liège, est important pour vous? Est-ce que c'est important du coup de s'ancrer dans un territoire précis, donc de défendre une scène liégeoise?
Pour moi, pas vraiment, parce que je suis pas quelqu'un de très, attaché, ancré à un territoire. Moi, je suis pas liégeoise à la base. En plus, je suis arrivée à Liège sur le tard pour bosser dans la musique. En fait, ça correspond à ce moment-là parce que Liège est génial. Enfin, moi, je m'y sens très très bien. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de choses à faire, de groupes à découvrir qui passent beaucoup de salles. Donc, Liège est une partie intégrante de l'œil qui est. Et fait un petit peu... En fait, on fait partie de ce microcosme liégeois. Je bosse aussi au micro. Il y a un truc un peu indescriptible à Liège qui est entre le punk et en même temps le travail, parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont là depuis longtemps et qui, en fait, évoluent, mais qui font le choix aussi de ne pas trop évoluer. Donc, moi, j'adore cette atmosphère très indé, punk de Liège. Mais dans le nom, donc l'œil, c'est Liège en flamand. Et il y avait quand même cette idée de direct s'ouvrir sur le nord du pays. Je sais pas si on a réussi. Je pense pas, parce que c'est super compliqué, quoi. Donc on a quand même des contacts et on bosse avec des gens sur ce territoire-là, mais c'est deux pays différents. Et on a beaucoup de groupes étrangers, beaucoup de groupes français, donc et ça, c'est clairement un truc auquel j'ai dû réfléchir, de me dire, mais attends, parce que là, on multiplie les collabs avec des groupes français, c'est super, on les adore, mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de défendre la scène, je veux dire, locale, mais pas liégeoise forcément, mais en tout cas belge en premier, parce que c'est ces groupes-là qui sont sur notre territoire, que je peux le mieux défendre et qui en ont le plus besoin, je pense.
On va passer à notre chapitre best-seller. Et quand je dis best-seller, on va expliquer, on va expliquer de quoi il s'agit. Best-seller, dans le sens, quel est l'artiste qui, pour toi, représente le plus le label. Est-ce que c'est E.T. Tanita avec qui vous avez commencé et qui en plus là du coup revient? Est-ce que c'est l'artiste emblématique aujourd'hui?
Ouais, je pense que E.T. est même dans la tête de beaucoup de gens qui connaissent Loïc. C'est le groupe Loïc et nous, on est de toute façon attachés aussi. En plus, bah, voilà, moi j'ai repris le management, donc ça montre bien que oui, clairement, E.T. c'est un groupe emblématique. Après, ça a double tranchant parce que ça fait coller un peu une image à Loïc de « ouais, vous faites du rock, du noise », alors qu'en fait, pas du tout. Et on a des groupes comme Endless Dive, où c'est plus post-rock, mat-rock, qui sont, en fait, voilà, qui streament beaucoup plus, qui vendent aussi bien et qui ont une énorme communauté et qui sont peut-être plus représentatifs de notre travail ouais, aussi depuis les nouvelles années Loïc, depuis que moi je suis là en tout cas. Mais oui, E.T. clairement, c'est assez emblématique de Loïc.
Je pense que tu es né à minima au début d'Internet, au début des années 2000, à minima. Je ne te demanderai pas ton âge.
C'est mon anniversaire samedi en plus.
Ah, ça donne un indice. Mais bon, peu importe, mais tu as vu l'évolution du music business depuis 23 ans, comme nous tous, avec en plus une césure Covid, un avant et un après. Qu'est-ce qui a changé pour toi entre, on va dire, les débuts de Loïc et aujourd'hui, dans le rapport notamment aux médias, aux communautés, qui est un terme qui est devenu de plus en plus important aujourd'hui, même dans la manière de distribuer la musique, même presque de la vendre, si tant est que c'est encore possible. Qu'est-ce qui a changé pour toi en 10 ans ?
Du coup, moi, j'ai quand même assez peu de recul sur. Comme j'ai embarqué en fait dans ce milieu quand le digital était déjà méga présent, donc pour moi, c'est complètement intégré. J'ai pas de comparatif avec quand en fait il y avait vraiment que la distribue physique qui faisait tourner les labels. Donc moi, j'ai vraiment tout de suite intégré ce côté stream, musique digitale et voilà, agence 300, en tout cas qui fait d'autres activités. Pour moi, c'était assez logique. Mais plus j'avance, plus je m'intéresse effectivement, parce qu'il faut en fait pour voir un petit peu comment d'autres labels se sont réinventés, se renseigner sur l'histoire vraiment de la musique enregistrée. Et je dirais que moi, depuis que je suis là, clairement, le Covid a changé beaucoup de choses, ou en tout cas dans les il y a eu longtemps un embouteillage, un truc un peu compliqué. Tout était compliqué, en fait. Sans rentrer dans les détails, tout était plus fastidieux. Les délais, les contacts. On avait l'impression que... À quoi bon, en fait? Moi, j'ai quand même eu un moment assez de désespoir. Et puis financièrement, nous, en toute transparence, ça a été vachement chaud aussi après le Covid. Là, on s'en remet tout doucement. Puis, il a fallu remplir tellement de dossiers aussi pour avoir des aides... Donc, après, là, je digresse un peu, mais c'est peut-être intéressant de le dire parce que Ça a été vraiment dur, quoi, en tant que label, ça pour nous, où en fait, il y a eu des aides qui ont été débloquées, mais pas, ça montre bien que les labels, le métier n'est pas vraiment reconnu, quoi, même au sein des politiques. En tout cas, c'est mon impression, parce que voilà, il y avait des fonds d'urgence mis en place, donc nous, on a rempli les dossiers pour les artistes, et en fait, donc les sous sont arrivés chez nous, puis nous, on a passé mais des heures et des heures à tout redistribuer, parce que c'était les cachets, les com, management pour... Chic et Chac, enfin à gauche, à droite, et nous en fait.
Il ne restait plus rien.
Ah ben non, en tant que label. Et donc, voilà, après c'est hyper difficile à chiffrer quelles sont tes pertes. Donc, dire, ben voilà, on va perdre autant en vente de disques, en digital, c'était vraiment compliqué. De toute façon, c'était même pas demandé, même pas recevable. Mmh. Donc, ouais, c'est, j'ai un peu digressé, mais. Moi, c'est mon expérience, en tout cas en label. Vraiment un début très naïf dans la musique, puis me dire mais c'est génial, en fait, bosser en label, j'adore ça, il y a plein de trucs à faire. Et Loïc a vraiment pris un essor jusqu'en 2020. C'était notre première prod aussi en 2020 avec Annabelle Lee. Et paf, Covid, là, retour aux bases. En plus, vraiment... restructuration profonde du passé, cleaner toute la compta et tout. Donc ça a été compliqué, mais en même temps hyper salutaire. Et aujourd'hui, je dirais que ouais, j'ai une vision un peu plus claire sur ce qu'il faut mettre en place pour être au moins pérenne et continuer tant bien que mal, quoi.
Non, la digression était intéressante et ça permet d'enchaîner avec, on va appeler ça la question game changer, de savoir selon toi, qu'est-ce qui... est important pour un label en 2023 et même surtout 2024 et and beyond pour arriver à percer, à se développer.
Ce qui est important, en tout cas moi, ce que je vais essayer de développer un peu mieux, c'est vraiment l'image en fait, c'est l'image du label, avoir... Allez, en fait, là, on rentre un peu dans le truc de marketing, tu vois, mais bon, c'est le mot, il ne faut pas en avoir peur, mais d'être... de véhiculer vraiment à travers ses réseaux, à travers son merch label et tout, hein, une certaine vision des choses, des valeurs, et il y a plein d'autres structures qui m'inspirent beaucoup, d'être plus inclusif et de faire partie juste du changement du microcosme musical et juste sociétal en général.
Tout à l'heure, tu parlais d'inclusion.
Ouais.
Et ça m'amène à une question. Quand on a préparé la liste des invités qu'on voulait recevoir dans cette série, trouver des femmes à la tête de label.
Bonne chance.
Bonne chance, on a réussi. La preuve, tu vois.
Ouais.
Mais c'est pas évident. C'est pas évident en Belgique, comme c'est pas évident en France. Comme je pense. Enfin, c'est peut-être plus évident côté anglo-saxon, je sais pas. Cet état de fait, pour toi, c'est un combat permanent ou tu sens que les lignes sont en train d'être en train de bouger?
Oh, un peu les deux, c'est un combat permanent, donc les lignes sont en train de bouger, je dirais. Et oui, c'était aussi quelque chose de super important pour moi de tenir bon, en fait, quand c'était vraiment dur au sein de la structure, comme plein d'autres après le Covid. De me dire, allez, en fait, tiens bon, parce que j'ai quand même en tête ce côté exemple, en tout cas, rester là pour être une femme dans la musique, une femme de label, parce qu'effectivement, en Belgique, vraiment, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et oui, moi, ça fait complètement partie, mais juste de ma vie en général, et je sens qu'il y a beaucoup de choses, je suis assez positive, parce qu'il y a plein de choses qui changent, mais on ne me parle plus de la même manière qu'au début, où j'ai vécu des trucs atroces, quoi, comme toutes les femmes dans la musique et dans la société.
Du mépris, de...
Oui, bah voilà, plein de moments où on sent qu'on n'a pas autant d'importance que notre collègue masculin, ça c'est sûr, et c'est... Ça se ressent par mille et un petits détails.
Et donc les réunions artistiques où tu es dans une pièce avec un mec à côté et ton interlocuteur regarde le mec et pas toi pour parler de choses sérieuses.
Oui, ou alors en networking, comme il y a beaucoup d'events de networking où voilà, c'est entre le pro et le perso. Mais en fait, si tu es avec ton collègue, on ne te parle même pas, donc on ne te demande même pas ce que tu fais ou quelles sont tes idées sur telle ou telle chose. Et donc ça... Moi, j'avais quand même développé, donc il y a tout ce qui est sentiment d'illégitimité aussi, contre lequel je me suis vachement battue pour essayer de juste faire, enfin bosser, quoi. Alors oui, en faisant des erreurs et de pas confondre être légitime et être parfaite, parce que ça aussi, en tant que femme, c'est, du coup, on bosse tellement parce qu'on veut être irréprochable, mais en fait, c'est OK aussi de se tromper et de faire des erreurs comme les hommes le font. Mais c'est, voilà, on a plus peur de se faire tomber dessus en tant que femme parce qu'on veut voilà, prouver qu'on est légitime. Et oui, j'avais développé une espèce de... je me demandais ce que je foutais là, en fait, dans les events de networking au début, où je disais, mais j'ai rien à dire, en fait. Et je me suis rendu compte que si, en fait, j'ai plein de choses à dire. Et ça m'a beaucoup aidé de me rapprocher d'autres femmes aussi dans la musique en Belgique, en France, et de voir, en fait, des meufs qui font des trucs de fou. Moi, une meuf qui m'inspire beaucoup, c'est Hélène Meignier, qui manage le projet Slift, et qui est aussi bookeuse chez Radical. Et c'est une pote, et en fait, moi je regarde son travail et la manière dont elle bosse, et c'est super inspirant, quoi. Et tu te dis. Et en même temps, quand on discute, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de doutes, de questions et tout. Et en fait, c'est juste bosser. Et quand tu bosses bien, en fait, tu peux aussi y arriver, tu peux aussi aller où tu veux aller, que ce soit dans l'indé, dans les grosses structures. Donc, ouais, moi je sens que ça change. On me considère plus de la même façon. Peut-être que j'ai aussi mis en place une espèce une attitude où les gens sentent que je vais pas me laisser faire. Ou je pense que les gars ont quand même un peu plus peur maintenant de dire des trucs qui sont pas OK. Et tant mieux, en fait, parce que nous, ça nous emmerde un peu moins. Voilà.
Oui, ça laisse plus de temps pour travailler sérieusement.
Ouais, ouais, voilà, exactement. Moi, j'ai pas la sensation de... Je vis encore des choses assez violentes quand même de temps en temps dans les rapports avec d'autres partenaires... professionnel, masculin, voilà, c'est... Mais en fait, avec le temps, on apprend aussi à s'entourer aussi des gens qui sont OK.
C'est quoi, si tu devais donner une prochaine grande étape pour vous en tant que label, en termes de développement, en termes d'envergure sur les années 2020, ce serait... C'est quoi le prochain objectif ?
L'idée générale, c'est de pouvoir se positionner vraiment comme un label qui peut produire un groupe, au moins un par an, de A à Z.
Let's make this world so sad. Alors l'émission, comme tu l'as compris, s'appelle Off the Record. Et donc Off the Record, c'est aussi le concept d'une petite confession. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous dire que tu n'as jamais dit à personne en interview aujourd'hui?
Bah en fait, le fait que je sois toute seule, c'est quand même, j'ai l'impression pour plein de gens, une confession, parce que c'est pas du tout acquis quoi, pour les gens de savoir que je suis seule et que ouais, c'est dur parfois. C'est vraiment difficile d'être seule à tout porter.
Mais à qui on parle dans les cas de doute et de gros down? On parle à ChatGPT pour se recompenser, comment on fait?
Heureusement, non. Oh non, à plein de... Bah oui, je parlais de réseaux plutôt de femmes dans la musique autour de moi. Ben, cette personne-là, la personne avec qui je partage ma vie, qui est aussi dans la musique et qui comprend bien les problématiques. Donc, entourée, je le suis, mais voilà, je sais que... En fait, c'est pas non plus... J'aime pas trop me plaindre non plus parce que c'est un super boulot. Et en fait, si je viens à m'en plaindre tout le temps, bah, alors c'est qu'il faut changer, en fait, tout simplement. Donc moi, j'essaie de vraiment garder du positif, de la bienveillance envers le boulot, le milieu, parce que oui, il y a plein de problèmes, il y a plein de belles choses. Et il faut juste être OK avec tout ça et aménager... son travail de manière confortable.
Ben, ce sera le mot de la fin. Merci Juliette et good luck pour Loïc.
Merci beaucoup. Salut.
Salut. On the record.